Ce qui m'étonnait plus chez Bloch que ses mauvaises manières, c'était combien la qualité de sa conversation était inégale. Ce garçon si difficile, qui, des écrivains les plus en vogue, disait « c'est un sombre idiot, c'est tout à fait un imbécile », par moments racontait avec une grande gaieté des anecdotes qui n'avaient rien de drôle, et citait comme « quelqu'un de vraiment curieux » tel homme entièrement médiocre. Cette double balance pour juger de l'esprit de la valeur, de l'intérêt des êtres, ne laissa pas de m'étonner jusqu'au jour où je connus M. Bloch père. Je n'avais pas cru que nous serions jamais admis à le connaître, car Bloch fils avait mal parlé de moi à Saint-Loup et de Saint-Loup à moi. Il avait notamment dit à Robert que j'étais toujours affreusement snob. « Si, si, il est enchanté de connaître Monsieur le Grandin, » dit-il. Cette manière de détacher un mot était chez Bloch le signe à la fois de l'ironie et de la littérature. Saint-Loup, qui n'avait jamais entendu le nom de Le Grandin, s'étonna. « Mais qui est-ce ? » « Oh, c'est quelqu'un de très bien !» répondit Bloch en riant et en mettant frileusement ses mains dans les poches de son veston, persuadé qu'il était en ce moment en train de contempler le pittoresque aspect d'un extraordinaire gentilhomme provincial, auprès de quoi ceux de Barbé d'Aurevilly n'étaient rien. Il se consolait de ne pas savoir peindre M. Le Grandin en lui donnant plusieurs ailes et en savourant ce nom comme un vin de derrière les fagots. Mais ses jouissances subjectives restaient inconnues aux autres. S'il dit à Saint-Loup du mal de moi, d'autre part, il ne m'en dit pas moins de Saint-Loup. Nous avions connu le détail de ses médisances chacun dès le lendemain, non que nous nous les fussions répétés l'un à l'autre, ce qui nous eût semblé très coupable, mais paraissait si naturel et presque si inévitable à Bloch que, dans son inquiétude et tenant pour certain qu'il ne ferait qu'apprendre à l'un ou à l'autre ce qu'ils allaient savoir, il préféra prendre les devants et, en menant Saint-Loup à part, lui avoua qu'il avait dit du mal de lui, exprès, pour que cela lui fût redit. Lui jura par le Cronion Zeus, gardien des serments, qu'il l'aimait, qu'il donnerait sa vie pour lui, et essuya une larme. Le même jour, il s'arrangea pour me voir seul, me fit sa confession, déclara qu'il avait agi dans mon intérêt parce qu'il croyait qu'un certain genre de relation mondaine m'était néfaste et que je valais mieux que cela. Puis, me prenant la main avec un attendrissement d'ivrogne, bien que son ivresse fût purement nerveuse, « Crois-moi, dit-il, et que la noire Caire me saisisse à l'instant et me fasse franchir les portes d'Hadès, odieux aux hommes, si hier en pensant à toi, à Combray, à ma tendresse infinie pour toi, à tels après-midi en classe que tu ne te rappelles même pas, je n'ai pas sangloté toute la nuit. Oui, toute la nuit, je te le jure. Hélas, je le sais car je connais les âmes, tu ne me croiras pas. » Je ne le croyais pas en effet, et à ces paroles que je sentais inventées à l'instant même et au fur et à mesure qu'il parlait, son serment par la Caire n'ajoutait pas un grand poids, le culte hellénique étant chez Bloch purement littéraire. D'ailleurs, dès qu'il commençait à s'attendrir et désirait qu'on s'attendrît sur un fait faux, il disait « Je te le jure !» Plus encore pour la volupté hystérique de mentir que dans l'intérêt de faire croire qu'il disait la vérité. Je ne croyais pas ce qu'il me disait, mais je ne lui en voulais pas, car je tenais de ma mère et de ma grand-mère d'être incapable de rancune, même contre de bien plus grands coupables, et de ne jamais condamner personne. Ce n'était du reste pas absolument un mauvais garçon que Bloch. Il pouvait avoir de grandes gentillesses. Et depuis que la race de Combray, la race d'où sortaient des êtres absolument intacts comme ma grand-mère et ma mère, semble presque éteinte, comme je n'ai plus guère le choix qu'entre d'honnêtes brutes, insensibles et loyales, et chez qui le simple son de la voix montre bien vite qu'ils ne se soucient en rien de votre vie, et une autre espèce d'hommes qui, tant qu'ils sont auprès de vous, vous comprennent, vous chérissent, s'attendrissent jusqu'à pleurer, prennent leur revanche quelques heures plus tard en faisant une cruelle plaisanterie sur vous, mais vous reviennent toujours aussi compréhensifs, aussi charmants, aussi momentanément assimilés à vous-même. Je crois que c'est cette dernière sorte d'homme dont je préfère, sinon la valeur morale, du moins la société. Tu ne peux t'imaginer ma douleur quand je pense à toi, reprit Bloch. Au fond, c'est un côté assez juif chez moi, ajouta-t-il ironiquement en rétrécissant sa prunelle comme s'il s'agissait de doser au microscope une quantité infinitésimale de sang juif, et comme aurait pu le dire, mais ne l'eût pas dit, un grand seigneur français qui, parmi ses ancêtres tous chrétiens, eut pourtant compté Samuel Bernard, ou plus anciennement encore, la Sainte Vierge de qui prétendent descendre, dit-on, les Lévis, qui reparaît. « J'aime assez, ajouta-t-il, faire ainsi dans mes sentiments la part, assez mince d'ailleurs, qui peut tenir à mes origines juives. » Il prononça cette phrase parce que cela lui paraissait à la fois spirituel et brave de dire la vérité sur sa race, vérité que par la même occasion, il s'arrangeait à atténuer singulièrement, comme les avares qui se décident à acquitter leurs dettes mais n'ont le courage d'en payer que la moitié. Le genre de fraude qui consiste à avoir l'audace de proclamer la vérité, mais en y mêlant pour une bonne part des mensonges qui la falsifient, est plus répandu qu'on ne pense, et même chez ceux qui ne le pratiquent pas habituellement, certaines crises dans la vie, notamment celles où une liaison amoureuse est en jeu, leur donnent l'occasion de s'y livrer. Toutes ces diatribes confidentielles de Bloch à Saint-Loup contre moi, à moi contre Saint-Loup, finirent par une invitation à dîner. Je ne suis pas bien sûr qu'il ne fît pas d'abord une tentative pour avoir Saint-Loup seul. La vraisemblance rend cette tentative probable. Le succès ne la couronna pas, car ce fut à moi et à Saint-Loup que Bloch dit un jour « Cher maître, et vous, cavalier Médarès de Saint-Loup-en-Bray, dompteur de chevaux, puisque je vous ai rencontré sur le rivage d'Amphitrite, résonnant d'écume, prédétente des meuniers aux nefs rapides, voulez-vous tous deux venir dîner un jour de la semaine chez mon illustre père au cœur irréprochable ?» Il nous adressait cette invitation parce qu'il avait le désir de se lier plus étroitement avec Saint-Loup, qui le ferait, espérait-il, pénétrer dans des milieux aristocratiques. Formé par moi, pour moi, ce souhait eût paru à Bloch la marque du plus hideux snobisme, bien conforme à l'opinion qu'il avait de tout un côté de ma nature qu'il ne jugeait pas, jusqu'ici du moins le principal, mais le même souhait de sa part lui semblait la preuve d'une belle curiosité de son intelligence désireuse de certains dépaysements sociaux, où il pouvait peut-être trouver quelque utilité littéraire. M. Bloch père, quand son fils lui avait dit qu'il amènerait dîner un de ses amis, dont il avait décliné sur un ton de satisfaction sarcastique le titre et le nom, le marquis de Saint-Loup-en-Bray, avait éprouvé une commotion violente. « Le marquis de Saint-Loup-en-Bray, ah, bougre » s'était-il écrié, usant du juron qui était chez lui la marque la plus forte de la déférence sociale. Et il avait jeté sur son fils, capable de s'être fait de telles relations, un regard admiratif qui signifiait « Il est vraiment étonnant. Ce prodige est-il mon enfant ?» et causa autant de plaisir à mon camarade que si 50 francs avaient été ajoutés à sa pension mensuelle. Car Bloch était mal à l'aise chez lui et sentait que son père le traitait de dévoyé parce qu'il vivait dans l'admiration de Lecomte de Lisle, Hérédia et autres bohèmes. Mais des relations avec Saint-Loup-en-Bray, dont le père avait été président du canal de Suez. Ah, bougre ! C'était un résultat indiscutable. On regretta d'autant plus d'avoir laissé à Paris, par crainte de l'abîmer, le stéréoscope. Seul M. Bloch, le père, avait l'art ou du moins le droit de s'en servir. Il ne le faisait du reste que rarement, à bon escient, les jours où il y avait gala et domestique mâle en extra. De sorte que de ces séances de stéréoscope, émanait pour ceux qui y assistaient comme une distinction, une faveur de privilégié, et pour le maître de la maison qui les donnait, un prestige analogue à celui que le talent confère, et qui n'aurait pas pu être plus grand si les vues avaient été prises par M. Bloch lui-même et l'appareil de son invention. « Vous n'étiez pas invité hier chez Salomon ?» disait-on dans la famille. « Non, je n'étais pas des élus. Qu'est-ce qu'il y avait ?»« Un grand tralala, le stéréoscope, toute la boutique !» Ah, s'il y avait le stéréoscope, je regrette, car il paraît que Salomon est extraordinaire quand il le montre. Que veux-tu, dit M. Bloch à son fils, il ne faut pas lui donner tout à la fois, comme cela il lui restera quelque chose à désirer. Il avait bien pensé dans sa tendresse paternelle et pour émouvoir son fils à faire venir l'instrument, mais le temps matériel manquait, ou plutôt on avait cru qu'il manquerait. Mais nous dûmes faire remettre le dîner parce que Saint-Loup ne put se déplacer, attendant un oncle qui allait venir passer 48 heures auprès de Madame de Villeparisis. Comme, très adonné aux exercices physiques, surtout aux longues marches, c'était en grande partie à pied, en couchant la nuit dans les fermes, que cet oncle devait faire la route depuis le château où il était en villégiature, le moment où il arriverait à Balbec était assez incertain. Et Saint-Loup, n'osant bouger, me chargea même d'aller porter à Incarville, où était le bureau télégraphique, la dépêche que mon ami envoyait quotidiennement à sa maîtresse. L'oncle qu'on attendait s'appelait Palamède, d'un prénom qu'il avait hérité des princes de Sicile, ses ancêtres. Et plus tard, quand je retrouvais dans mes lectures historiques, appartenant à tel podestat ou tel prince de l'Église, ce prénom même, belle médaille de la Renaissance, d'aucuns disaient un véritable antique, toujours resté dans la famille, ayant glissé de descendant en descendant depuis le cabinet du Vatican jusqu'à l'oncle de mon ami, j'éprouvais le plaisir réservé à ceux qui, ne pouvant faute d'argent constituer un médaillé, une pinacothèque, recherchent les vieux noms, noms de localités, documentaires et pittoresques comme une carte ancienne, une vue cavalière, une enseigne ou un coutumier, nom de baptême, où résonne et s'entend dans les belles finales françaises le défaut de langue, l'intonation d'une vulgarité ethnique, la prononciation vicieuse selon lesquelles nos ancêtres faisaient subir aux mots latins et saxons des mutilations durables, devenues plus tard les augustes législatrices des grammaires. Et en somme, grâce à ces collections de sonorités anciennes, se donnent à eux-mêmes des concerts, à la façon de ceux qui acquièrent des viols de gambe et des viols d'amour pour jouer de la musique d'autrefois sur des instruments anciens. Saint-Loup me dit que, même dans la société aristocratique la plus fermée, son oncle Palamède se distinguait encore comme particulièrement difficile d'accès, dédaigneux, entiché de sa noblesse, formant avec la femme de son frère et quelques autres personnes choisies ce qu'on appelait le cercle des phénix. Là même il était si redouté pour ses insolences qu'autrefois il était arrivé que des gens du monde qui désiraient le connaître et s'étaient adressés à son propre frère avaient essuyé un refus. « Non, ne me demandez pas de vous présenter à mon frère Palamède. Ma femme, nous tous, nous nous y attellerions que nous ne pourrions pas. Ou bien vous risqueriez qu'il ne soit pas aimable et je ne le voudrais pas. » Au jockey, il y avait avec quelques amis désignés 200 membres qu'il ne se laisserait jamais présenter. Et chez le comte de Paris, il était connu sous le sobriquet du prince, à cause de son élégance et de sa fierté. Saint-Loup me parla de la jeunesse depuis longtemps passée de son oncle. Il amenait tous les jours des femmes dans une garçonnière qu'il avait en commun avec deux de ses amis beaux comme lui, ce qui faisait qu'on les appelait les Trois Grâces. Un jour, un des hommes qui est aujourd'hui des plus en vue dans le faubourg Saint-Germain, comme eût dit Balzac, mais qui, dans une première période assez fâcheuse, montrait des goûts bizarres, avait demandé à mon oncle de venir dans cette garçonnière, mais à peine arrivé, ce ne fut pas aux femmes, mais à mon oncle Palamède qu'il se mit à faire une déclaration.
mon oncle fit semblant de ne pas comprendre, emmena sous un prétexte ses deux amis. Ils revinrent, prirent le coupable, le déshabillèrent, le frappèrent jusqu'au sang et, par un froid de 10 degrés au-dessous de zéro, le jetèrent à coups de pied dehors, où il fut trouvé à demi-mort, si bien que la justice fit une enquête à laquelle le malheureux eut toute la peine du monde à la faire renoncer. Mon oncle ne se livrerait plus aujourd'hui à une exécution aussi cruelle, et tu n'imagines pas le nombre d'hommes du peuple, lui si hautain avec les gens du monde, qu'il prend en affection, qu'il protège, quitte à être payé d'ingratitude. Ce sera un domestique qu'il aura servi dans un hôtel et qu'il placera à Paris, ou un paysan à qui il fera apprendre un métier. C'est même le côté assez gentil qu'il y a chez lui, par contraste avec le côté mondain. Saint-Loup appartenait en effet à ce genre de jeunes gens du monde situés à une altitude où on a pu faire pousser ses expressions, ce qu'il y a même d'assez gentil chez lui, son côté assez gentil. Semence assez précieuse produisant très vite une manière de concevoir les choses dans laquelle on se compte pour rien, et le peuple pour tout, en somme tout le contraire de l'orgueil plébéien. Il paraît qu'on ne peut se figurer comme il donnait le ton, comme il faisait la loi à toute la société dans sa jeunesse. Pour lui, en toutes circonstances, il faisait ce qui lui paraissait le plus agréable, le plus commode, mais aussitôt c'était imité par les snobs. S'il avait eu soif au théâtre et s'était fait apporter à boire dans le fond de sa loge, les petits salons qu'il y avait derrière chacune se remplissaient la semaine suivante de rafraîchissements. Un été très pluvieux où il avait un peu de rhumatisme, il s'était commandé un par-dessus d'une vigogne souple mais chaude qui ne sert guère que pour faire des couvertures de voyage et dont il avait respecté les raies bleues et oranges. Les grands tailleurs se virent commander aussitôt par leurs clients des pardessus bleus et frangés à longs poils. Si pour une raison quelconque ils désiraient ôter tout caractère de solennité à un dîner dans un château où ils passaient une journée, et pour marquer cette nuance n'avaient pas apporté d'habits et s'étaient mis à table avec le veston de l'après-midi, la mode devenait de dîner à la campagne en veston. Que pour manger un gâteau, il se servit, au lieu de sa cuillère, d'une fourchette ou d'un couvert de son invention commandé par lui à un orfèvre ou de ses doigts, il n'était plus permis de faire autrement. Il avait eu envie de réentendre certains quatuors de Beethoven, car avec toutes ses idées saugrenues, il est loin d'être bête et fort doué, et avait fait venir des artistes pour les jouer chaque semaine, pour lui et quelques amis. La grande élégance fut, cette année-là, de donner des réunions peu nombreuses où on entendait de la musique de chambre. Je crois d'ailleurs qu'il ne s'est pas ennuyé dans la vie. Beau comme il a été, il a dû en avoir des femmes. Je ne pourrais pas vous dire d'ailleurs exactement lesquelles parce qu'il est très discret, mais je sais qu'il a bien trompé ma pauvre tante, ce qui n'empêche pas qu'il était délicieux avec elle, qu'elle l'adorait et qu'il l'a pleuré pendant des années. Quand il est à Paris, il va encore au cimetière presque chaque jour.
Le lendemain matin du jour où Robert m'avait ainsi parlé de son oncle tout en l'attendant, vainement du reste, comme je passais seul devant le casino en rentrant à l'hôtel, j'eus la sensation d'être regardé par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires, et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l'attention. Par moments, ils étaient percés en tous sens par des regards d'une extrême activité, comme en ont seuls devant une personne qu'ils ne connaissent pas, des hommes à qui, pour un motif quelconque, elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre, par exemple des fous ou des espions. Il lança sur moi une suprême œillade à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, comme un dernier coup que l'on tire au moment de prendre la fuite, et après avoir regardé tout autour de lui, prenant soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de toute sa personne, il se tourna vers une affiche dans la lecture de laquelle il s'absorba, en fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il sortit de sa poche un calepin sur lequel il eut l'air de prendre en note le titre du spectacle annoncé, tira deux ou trois fois sa montre, abaissa sur ses yeux un canotier de paille noire, dont il prolongea le rebord avec sa main mise en visière comme pour voir si quelqu'un n'arrivait pas, fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir qu'on a assez d'attendre, mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement, puis, rejetant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée ras qui admettait cependant de chaque côté d'assez longues ailes de pigeon ondulées, il exhala le souffle bruyant des personnes qui ont non pas trop chaud, mais le désir de montrer qu'elles ont trop chaud. J'eus l'idée d'un escroc d'hôtel qui, nous ayant peut-être déjà remarqué les jours précédents, ma grand-mère et moi, et préparant quelques mauvais coups, venait de s'apercevoir que je l'avais surpris pendant qu'il m'épiait. Pour me donner le change, peut-être cherchait-il seulement par sa nouvelle attitude à exprimer la distraction et le détachement. Mais c'était avec une exagération si agressive que son but semblait, au moins autant que de dissiper les soupçons que j'avais dû avoir, de venger une humiliation qu'à mon insu je lui eusse infligée, de me donner l'idée non pas tant qu'il ne m'avait pas vu, que celle que j'étais un objet de trop petite importance pour attirer son attention. Il cambrait sa taille d'un air de bravade, pinçait les lèvres, relevait ses moustaches et, dans son regard, ajustait quelque chose d'indifférent, de dur, de presque insultant. Si bien que la singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur et tantôt pour un aliéné. Pourtant, sa mise extrêmement soignée était beaucoup plus grave et beaucoup plus simple que celle de tous les baigneurs que je voyais à Balbec, et rassurante pour mon veston, si souvent humilié par la blancheur éclatante et banale de leur costume de plage. Mais ma grand-mère venait à ma rencontre. Nous fîmes un tour ensemble et je l'attendais une heure après devant l'hôtel où elle était entrée un instant, quand je vis sortir Madame de Villeparisis avec Robert de Saint-Loup et l'inconnu qui m'avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d'un éclair, son regard me traversa, ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu, et revint, comme s'il ne m'avait pas vu, se ranger un peu plus bas devant ses yeux, émoussé comme le regard neutre qui feint de ne rien voir au dehors et n'est capable de rien lire au dedans. Le regard qui exprime seulement la satisfaction de sentir autour de soi les cils qui l'écartent de sa rondeur béate. Le regard dévot et confit qu'ont certains hypocrites. Le regard fat qu'ont certains sots. Je vis qu'il avait changé de costume. Celui qu'il portait était encore plus sombre, et sans doute c'est que la véritable élégance est moins loin de la simplicité que la fausse. Mais il y avait autre chose. D'un peu près, on sentait que si la couleur était presque entièrement absente de ses vêtements, ce n'était pas parce que celui qui l'en avait banni y était indifférent, mais plutôt parce que, pour une raison quelconque, il se l'interdisait. Et la sobriété qu'il laissait paraître semblait de celles qui viennent de l'obéissance à un régime plutôt que du manque de gourmandise. Un filet de vert sombre s'harmonisait, dans le tissu du pantalon, à la rayure des chaussettes avec un raffinement qui décelait la vivacité d'un goût maté partout ailleurs et à qui cette seule concession avait été faite par tolérance. Tandis qu'une tache rouge sur la cravate était imperceptible, comme une liberté qu'on ose prendre. « Comment allez-vous ? Je vous présente mon neveu, le baron de Guermantes, me dit Madame de Villeparisis, pendant que l'inconnu, sans me regarder, grommelant un vague « charmé » qu'il fit suivre de « pour donner à son amabilité quelque chose de forcé, et repliant le petit doigt, l'index et le pouce, me tendait le troisième doigt et l'annulaire, dépourvu de toute bague, que je serrais sous son gant de Suède. Puis, sans avoir levé les yeux sur moi, il se détourna vers Madame de Villeparisis. « Mon Dieu, est-ce que je perds la tête ?» dit celle-ci en riant. « Voilà que je t'appelle le baron de Guermantes. Je vous présente le baron de Charlus. »
Après tout, l'erreur n'est pas si grande, ajouta-t-elle. Tu es bien zingarmante tout de même.
Cependant, ma grand-mère sortait. Nous fîmes route ensemble. L'oncle de Saint-Loup ne m'honora non seulement pas d'une parole, mais même d'un regard. S'il dévisageait les inconnus, et pendant cette courte promenade, il lança deux ou trois fois son terrible et profond regard en coup de sonde sur des gens insignifiants et de la plus modeste extraction qui passaient. En revanche, il ne regardait à aucun moment, si j'en jugeais par moi, les personnes qu'il connaissait. Comme un policier en mission secrète, mais qui tient ses amis en dehors de sa surveillance professionnelle. Les laissant causer ensemble, ma grand-mère, Madame de Villeparisis et lui, je retins Saint-Loup en arrière. « Dites-moi, ai-je bien entendu ? Madame de Villeparisis a dit à votre oncle qu'il était un Guermantes. » « Mais oui, naturellement, c'est pas la Mède de Guermantes. »
« Mais des mêmes Guermantes qui ont un château près de Combray et qui prétendent descendre de Geneviève de Brabant ?»«
Mais absolument. Mon oncle, qui est on ne peut plus héraldique, vous répondrait que notre cri de guerre, qui devint ensuite Passavant, était d'abord Combraisis, dit-il en riant pour ne pas avoir l'air de tirer vanité de cette prérogative du cri qu'avaient seules les maisons quasi souveraines, les grands chefs des bandes. Il est le frère du possesseur actuel du château. Ainsi s'apparentait, et de tout près, aux Guermantes, cette Madame de Villeparisis, restée si longtemps pour moi la dame qui m'avait donné une boîte de chocolat tenue par un canard, quand j'étais petit, plus éloignée alors du côté de Guermantes que si elle avait été enfermée dans le côté de mes églises, moins brillante, moins haut située par moi que l'opticien de Combray, et qui maintenant subissait brusquement une de ces hausses fantastiques, parallèles aux dépréciations non moins imprévues d'autres objets que nous possédons, lesquels, les unes comme les autres, introduisent dans notre adolescence et dans les parties de notre vie où persiste un peu de notre adolescence des changements aussi nombreux que les métamorphoses d'Ovide. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce château tous les bustes des anciens seigneurs de Guermantes ?
Oui, c'est un beau spectacle, dit ironiquement Saint-Loup. Entre nous, je trouve toutes ces choses-là un peu falotes. Mais il y a à Guermantes, ce qui est un peu plus intéressant, un portrait bien touchant de ma tante par carrière.
C'est beau comme du Whistler ou du Velasquez, ajouta Saint-Loup qui, dans son zèle de néophyte, ne gardait pas toujours exactement l'échelle des grandeurs. Il y a aussi d'émouvantes peintures de Gustave Moreau. Ma tante est la nièce de votre amie Madame de Villeparisis. Elle a été élevée par elle et a épousé son cousin, qui était neveu aussi de ma tante Villeparisis, le duc de Guermantes actuel.
Et alors, qu'est votre oncle ?
Il porte le titre de baron de Charlus. Régulièrement, quand mon grand-oncle est mort, mon oncle Palamède aurait dû prendre le titre de prince des Laumes, qui était celui de son frère avant qu'il devint duc de Guermantes. Car dans cette famille-là, il change de nom comme de chemise. Mais mon oncle a sur tout cela des idées particulières. Et comme il trouve qu'on abuse un peu des duchés italiens, grandesses espagnoles, etc., et bien qu'il eût le choix entre 4 ou 5 titres de prince, il a gardé celui de baron de Charlus par protestation et avec une apparente simplicité où il y a beaucoup d'orgueil. « Aujourd'hui, dit-il, tout le monde est prince. Il faut pourtant bien avoir quelque chose qui vous distingue. Je prendrai un titre de prince quand je voudrai voyager incognito. »
Il n'y a pas, selon lui, de titre plus ancien que celui de baron de Charlus. Pour vous prouver qu'il est antérieur à celui des Montmorency, qui se disaient faussement les premiers barons de France, alors qu'ils l'étaient seulement de l'île de France où était leur fief, mon oncle vous donnera des explications pendant des heures, et avec plaisir, parce que, quoiqu'il soit très fin, très doué, il trouve cela un sujet de conversation tout à fait vivant, dit Saint-Loup avec un sourire.
Mais comme je ne suis pas comme lui, vous n'allez pas me faire parler généalogie. Je ne sais rien de plus assommant, de plus périmé. Vraiment, l'existence est trop courte.
Je reconnaissais maintenant dans le regard dur qui m'avait fait retourner tout à l'heure près du casino celui que j'avais vu fixé sur moi à Tansonville au moment où Madame Swann avait appelé Gilberte. Mais parmi les nombreuses maîtresses que vous me disiez qu'avait eu votre oncle, Monsieur de Charlus, est-ce qu'il n'y avait pas Madame Swann ?
Oh, pas du tout ! C'est-à-dire qu'il est un grand ami de Swann et l'a toujours beaucoup soutenu. Mais on n'a jamais dit qu'il fût l'amant de sa femme. Vous causeriez beaucoup d'étonnement dans le monde si vous aviez l'air de croire cela.
Je n'osais lui répondre qu'on en aurait éprouvé bien plus à Combray si j'avais eu l'air de ne pas le croire.